Vous écoutez La Grenouille, c'est pour la petite heure qui vient une émission spéciale sur les 3 et 8 consacrée à la 14e édition du Festival de Marseille. Un festival qui s'est rebaptisé cette année Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille pour afficher de façon plus affirmée la dimension transdisciplinaire des démarches d'artistes et des spectacles programmés par le festival. Mais ce n'est pas cette transdisciplinarité des propositions dont il va être question dans cette émission, mais de mémoires et de traces, qui constituent, que ce soit des mémoires ou traces de lieux, de gens, de moments, des principes actifs de la fabrication de nombreux spectacles présentés au cours de cette 14e édition. Cette émission s'appelle donc « Des traces à l'œuvre ». Vous pourrez y entendre Jean-Claude Acquaviva du groupe de polyphonie corse Affiletta, groupe qui a fait l'ouverture du festival le 17 juin dernier, Christophe Aleb, chorégraphe, qui a investi à l'invitation du festival le Palais des Beaux-Arts de Marseille, Karine Pontiès, dont le spectacle « Humus Vertebra » a été construit autour de la figure de l'épouvantail, Katrina Christel et Simon Courchel, deux danseurs du Ballet National de Marseille qui ont créé leur première chorégraphie, Get Ready, I'm Done. Pierre Droulers pour sa pièce Walk, Talk, Shock, La Marche, La Parole et La Trace. Et enfin, la pianiste Nathalie Negro autour du projet J'ai des milliers de gestes. C'est le groupe Affiletta, La Fougère, qui a donc fait l'ouverture du Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille le 17 juin dernier, en plein air, sur la place Bargemont, l'un des peu nombreux groupes de polyphonie corse qui a continué son cheminement artistique malgré le désintérêt progressif depuis les débuts des années 2000 pour ce style musical par le grand public. Affiletta continue peut-être parce qu'ils ont supporté leur chant à la rencontre d'autres univers artistiques, parmi d'autres celui de la danse avec Sidi Larbi Charkaoui par exemple, de la musique créole avec Daniel Waro ou du cinéma avec Bruno Coulet. Jean-Claude Acquaviva, porte-parole du groupe Affiletta, a répondu à quelques-unes de nos questions sur la place de la mémoire dans les polyphonies corses et dans le parcours du groupe.
La mémoire pour les polyphonies corses, c'est d'abord c'est la mémoire du chant qui se transmet, d'accord, puisque c'est un chant qui est de tradition orale, qui se transmet à boc, comme nous disons chez nous, c'est-à-dire c'est du bouche à oreille qui fonctionne de génération en génération. Donc il y a effectivement une mémoire musicale qui se transmet. Ensuite, une mémoire du texte aussi, bien évidemment, parce que quand on chante pas non plus. On peut chanter des choses tout à fait dérisoires, tout à fait qui n'ont pas forcément d'intérêt sur le plan du texte, mais on chante aussi quelquefois des textes qui font partie de la mémoire collective du peuple corse, c'est-à-dire des chants qui évoquent des moments douloureux, des moments de la nécessité de quitter la Corse pour faire sa vie ailleurs, les guerres qui ont été terriblement dévastatrices chez nous, des moments douloureux de l'histoire de l'île, que ce soit ceux qui ont suivi l'indépendance au 18e, des moments joyeux, etc. Donc il y a toute une mémoire de l'histoire de l'île aussi qui se transmet à travers nos textes. Et enfin, il y a la mémoire que nous ajoutons, en quelque sorte, qui est peut-être la nôtre, et qui elle-même emprunte évidemment, encore une fois, à des auteurs modernes, à la littérature moderne, que ce soit des grands auteurs comme Pessoa, comme encore une fois, comme Borges, comme Charles, comme Aragon, voilà, des gens qu'on a plaisir à lire, qui à un moment donné nous ont fascinés par leurs paroles, par leurs pensées, et qui évidemment qu'on intègre naturellement dans notre mémoire qui est elle-même en construction. Encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de dire nous sommes un voyage. Voilà, nous sommes avant tout un voyage, nous sommes une marche, nous sommes une trajectoire. Et ce qui est important, c'est de tenir compte de ça dans l'édification de cette mémoire.
Mais cette idée de nous sommes un voyage, c'est l'apport de Affiletta aux polyphonies corses ou ça a toujours existé dans les polyphonies?
Bon, je crois que nous, si vous voulez, nous l'avons... je ne sais pas comment il faut dire le terme, je ne suis pas sûr du terme, on l'a peut-être conscientisé, c'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, on fait entrer cette réflexion dans notre démarche. Mais de fait, la polyphonie corse, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas endogène. À un moment donné, elle n'est pas née de rien, je dirais, en Corse. Cette polyphonie, vous trouvez des similitudes extrêmement fortes dans le Caucase. Vous trouvez des similitudes extrêmement puissantes en Albanie, dans le Proche-Orient. Donc, tout ça est bien le signe que des civilisations se sont croisées, se sont superposées, se sont entrechoquées même des fois. Et elles ont donné naissance à des strates, à des choses qui constituent notre mémoire musicale. Donc nous sommes, et c'est là-dessus peut-être où nous sommes les plus tranchants, c'est-à-dire que nous refusons l'idée que la polyphonie corse soit née de rien et qu'elle soit spécifiquement corse. La polyphonie corse, forcément, elle a emprunté à d'autres. Forcément, elle est le fruit de rencontres, elle est le fruit d'invasions, elle est le fruit de tueries, elle est le fruit de choses qui sont évidemment probablement douloureuses au moment où elles se produisent, mais qui sont la vie. Et c'est ça, la vie est là, malheureusement ou heureusement, ou de toute façon, naturellement et fatalement, la vie est là. Et dans le discours que nous avons sur la polyphonie, peut-être que nous avons développé ce discours en ayant une certaine conscience. Mais de fait, la polyphonie corse, elle est, encore une fois, elle est une trajectoire. Elle n'a jamais été... Quelquefois, les gens vous disent, oui, mais il faut le respect de la tradition. Je dis, mais c'est quoi la tradition? La tradition, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui naît en 454? Non. La tradition, c'est des évolutions, c'est des courants, ce sont des apports nouveaux. Nous avons toujours utilisé cette image. On dit pour nous, la tradition, c'est un tamis. La tradition elle-même est un tamis. Et ce qui est important, c'est que les générations successives utilisent le tamis. Si l'on arrête de considérer que le tamis fait son travail, alors le tamis n'a plus de raison d'être. Et s'il n'a plus de raison d'être, c'est toute la vie qui n'a plus de sens. Voilà, il nous semble tout à fait logique de fonctionner dans ce mode-là.
Vous, qu'est-ce qui vous a amené à chanter polyphonie corse? C'était une tradition familiale?
Alors, moi particulièrement, non. J'avais des gens dans la famille qui étaient des musiciens, qui jouaient... j'avais notamment un arrière-grand-père qui était musicien, qui jouait de plein d'instruments, qui était passionné de musique, etc. Bon, moi, très petit, j'ai été passionné par un chanteur qui s'appelle Antoine Chos, qui est aujourd'hui encore vivant, qui a 78 ou 79 ans, et qui a été un peu, qui a fait le lien, en quelque sorte, entre les traditions qui se perdaient, en gros, à partir de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où les campagnes se dépeuplent, la tradition dégringole. Et cet Antoine Chos, je dis, il a fait tout un travail qui était un peu à cheval, c'est-à-dire qu'en même temps, il faisait des choses qui étaient bien sûr issu de la tradition et ça se sentait, mais en même temps il chantait des choses, des mélodies napolitaines, et moi tout petit, j'avais 7 ans, je connaissais les albums d'Antoine Chos par cœur. C'est-à-dire que je connaissais. Antoine Chos avait l'habitude entre ses chansons de faire des petits intermèdes parler. Moi j'avais 7 ans, je ne comprenais même pas ce que je disais, mais je chantais de la première note à la dernière et je disais tout ce qu'il disait. Voilà. Après, à l'adolescence, j'arrive à l'âge de 13-14 ans, à un moment où la Corse porte un regard très, très inquiet, je dirais, sur son devenir, comme beaucoup d'ailleurs de régions d'Europe. Les années 60 qui ont suivi les années 68 ont été quand même une volonté d'un moment donné, et d'ouverture, et de libéralisation, de libération en quelque sorte, mais en même temps la prise de conscience, je dirais qu'il y avait plein de choses qui étaient là à portée de main et que finalement on négligeait. Donc Il y a un mouvement culturel et revendicatif très fort. Moi, j'ai 13 ans, 14 ans, je suis au collège, j'y prends part naturellement. Après, c'est question de goût, après, c'est question de rencontre. Le groupe se crée en 78, j'y prends part, et petit à petit, il se développe jusqu'à 94. On dit, maintenant, si on veut le faire comme il faut, si on veut vraiment donner une dimension viable, en quelque sorte, à notre parcours, il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on le fasse à plein temps, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on répète, il faut qu'on travaille, il faut qu'on produise, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on parte en tournée, et c'est ce qu'on décide de faire.
C'était Jean-Claude Acquaviva du groupe Affileta. Le chorégraphe Christophe Haleb et sa compagnie Lazouz étaient invités par le Festival de danse et des arts multiples de Marseille à investir artistiquement, au lieu de mémoire et d'histoire à Marseille, le Musée des Beaux-Arts, au Palais Longchamp.
Quand on a initié la conception, la réflexion de Evelyn House of Shame, il y a 2 ans, ça a démarré sur l'observation des sites majestueux du 19e siècle, âge d'or de la ville. Marseille, 19e, c'est une grosse urbanisation. Napoléon III, qui est très ambitieux nationalement sur la modernisation de la ville, passé aussi à l'électrification, on passe de la nuit au jour. Ici, Palais Longchamp, c'est l'arrivée des eaux, ce qui n'est pas rien, c'est l'abondance, c'est quand même symbole de fertilité, alors que la ville, quand même, c'est un Montpellier, Marseille, hein, 18e siècle, c'est dry de chez dry.
Le deuxième salon Evelyn House of Shame de Christophe Haleb et de la compagnie de Lazouz au Musée des Beaux-Arts s'est donc déroulé le mardi 30 juin et le mercredi 1er juillet après un premier salon au Palais de la Bourse en février dernier. Une proposition qui se construit à partir de la mémoire des lieux. Christophe Haleb.
Donc voilà, le Palais Longchamp, c'est un des premiers lieux qu'on avait envie, et notamment le Musée des Beaux-Arts, auquel on avait envie d'avoir accès, pour faire le rapprochement entre les Beaux-Arts et l'Académie de la danse au XIXe siècle, l'opéra, le ballet romantique, tout ça. Après, nous, évidemment, on travaille sur des expérimentations, des processus, on est dans plutôt héritier de la modernité. Donc aujourd'hui, notre modernité, c'est peut-être de revisiter le temps et le temps historique, et puis le présent, et puis ce qu'on est en train d'en faire.
La période que vit Marseille aujourd'hui ressemble pas mal à celle qu'elle a vécue justement à la fin du 19e siècle, là où il y a eu toutes ces grandes transformations urbaines.
C'est vrai. J'y étais pas, mais dans les livres, en tout cas, on sent une agitation, une effervescence qui fait qu'on sent que c'est une ville qui a brassé, qui a vu transiter des Indiens, des aristocrates, des migrants, des émigrants. Une ville qui a sûrement procuré beaucoup d'espoir pour plein de gens et puis qui allait vers, avec aussi un changement de style de vie. Hein, la fin du 19e, c'est aussi le tremblement de l'image et l'impressionnisme, c'est le passage vers la modernité, quoi. C'est vraiment la bascule. Donc Marseille avec la lumière, avec l'ouverture sur l'Orient, c'est, j'imagine que ça a fait le lien aussi avec les colonies. On était quand même en plein dedans et la ville est devenue très riche aussi grâce avec cette colonisation là. Donc du coup l'héritage il est présent dans la ville par l'architecture. L'architecture, elle est toujours symbole d'une puissance. Le bâtiment, il est là pour montrer le stable dans le temps historique. Donc aujourd'hui, on est dans un lieu qui a été fermé, je pense, depuis 6 ans. Et moi, depuis que je suis arrivé à Marseille, donc c'est-à-dire il y a 5 ans et demi, j'ai toujours connu ce lieu fermé. Alors c'est assez étonnant aujourd'hui d'avoir accès, dans un temps très court, là on y est depuis, on a une semaine pour fabriquer le salon, mais ça fait déjà 10 jours que je viens renifler un peu l'odeur du lieu, donc le lieu est abandonné, on a l'impression que les gens ont quitté le lieu comme ça, et donc on a hérité toutes les traces, séchées, abandon du matériau, et en même temps ça a une vraie poésie, donc pour nous c'est un trésor.
Comment tu travailles avec ces traces justement? Comment ces traces participent de ton écriture artistique?
Eh bien justement, la question qu'on se pose, on est en plein dedans, c'est comment ne pas être dans quelque chose qui serait de la reconstitution, ne pas être dans le spectaculaire, mais trouver un mode d'intervention qui viendrait dialoguer avec les traces, tout ce qui est les bois abandonnés, toutes les traces au sol, toutes les traces administratives, toutes les traces de documentation, tout ce qui est tangible en termes déjà de ce que le lieu inscrit, comme les tableaux qui sont dans les murs, les signes décoratifs. Étant donné tout ça, ça fait référence à notre culture personnelle. Et puis il y a des choses qu'on trouve. On a trouvé des plaques photographiques du 19e siècle. On va sûrement, grâce à l'accord et à la bienveillance du conservateur Luc du musée qui nous donne accès aussi à des sources de références qui nourrissent un propos. On essaie de dialoguer avec ces traces et puis d'en décomposer, de les décomposer, de les recomposer autrement avec notre projection, nos matériaux. Et en même temps, il faut qu'on fasse, nous, le lien avec ce qu'on a vécu dans le premier salon d'hiver à la Bourse, qui était un salon de papier. Ça brassait du papier, hein. Le salon de la Bourse, c'était la monnaie. Money. Et là, c'est plus la... Alors, on devait être au... Depuis plus d'un mois, je bossais sur le port, le dock, la bête de Somme, un imaginaire marin et du travail, la question du travail. Donc, il y avait plein de parallèles intéressants. Et du transit aussi, de la matière. Donc, c'était la matière. Donc, c'était un salon de matière. Plus, pas de papier, mais de matière. Et ici, on se retrouve dans un salon des beaux-arts. Donc, en gros, c'est la matière du corps. Là, ça va être, je pense, un salon plus charnel. Peut-être plus érotique aussi. Dans un érotisme de la vie. Parce que ce salon, il est dans... Voilà, c'est un peu un palais. L'escalier, il inspire la Byzance. Il est d'une inspiration byzantine. Et donc, il évoque les grands palais d'Orient ou d'Italie. Donc, c'est déjà une évasion. Donc, on se laisse un peu aussi aller dans cette chose. On passe par le jardin, donc par les eaux, par toute cette chose sur la fontaine. Donc, c'est assez impérial. C'est la voie royale, là. Donc, nous, on est dans des choses peut-être plus concrètes, forme de réalité, avec étant donné tout ce décor et les traces d'abandon, et les traces d'histoire qui, dans le ballet, comme dans l'art, comme dans les beaux-arts, comme dans la danse, ont pu, à un moment donné, créer des continuités ou des ruptures, on travaille à l'intérieur de ça, quoi.
Donc c'est plus un travail avec les traces que sur les traces?
Oui, c'est avec les traces et avec le lieu, et à partir du lieu. Déjà à partir du lieu, dans ce qu'il propose de circulation. Un lieu symétrique, tout est en double, les galeries sont symétriques, les escaliers sont symétriques, le bâtiment lui-même de l'extérieur est symétrique. Donc c'est intéressant pour le corps, le droit, le gauche, le haut, le bas. Bon, on peut s'amuser avec ça. Enfin, ça c'est bête, mais ça a l'avantage de clarifier. Donc comment être clair dans ça, puisque ça ordonnance une circulation, donc une exposition, donc une lecture. Après, on va essayer de naviguer autrement dans l'usage qu'on fera du lieu et dans la durée. C'est-à-dire que là, on va ouvrir de 20h30 à 1h du matin. Et donc, c'est aussi un usage détourné du lieu. C'est plus un musée, mais en même temps, ça en a les traces. Un musée de la danse qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps à Rennes avec Boris Charmatz. Donc nous, on se retrouve avec des exposés de corps ici qui sont très pertinent, voire impertinent, à mettre en rapport avec les sculptures qui restent sur les stèles, qui sont des belles sculptures en marbre. Évidemment, c'est que des nus. Le nu, au 19e siècle, c'est une vraie bataille, parce que Par exemple, quand l'Opéra Garnier, qui est l'équivalent, enfin, au niveau de l'époque, c'est la même période que Longchamp, c'est juste avant la Commune, finalement. Hein, c'est vraiment la boursouflure du Second Empire qui fait que ça délire dans le style architectural et dans les salons, dans tout ce qui est lié aux beaux-arts, aux lettres. Et donc, on se retrouve avec... comment dire, avec cette chose-là où il faut qu'on arrive à voir comment on a hérité d'une rupture. Parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la bataille du Nu. Pour revenir sur l'Opéra de Paris, quand Carpeaux il a fait ses sculptures, ou ce que des statuaires de nu, monumentales, ça a créé scandale. Mais en même temps, il y a une bourgeoisie du 19e qui est très conservatrice, catholique, sur l'héritage familial, des valeurs, tout ça. Et la transmission aussi du pécule. Et puis donc on enrichissait les familles parce que ça passait comme ça. C'est des entreprises familiales et paternalistes. Après, on se retrouve avec Courbet, par exemple, quand même, qui ouvre un rapport à la représentation du corps, au nu et à la chair et à la sexualité. Et en effet, on sait bien qu'il y a toute une version, une histoire cachée, une histoire, on va dire, secrète du 19e, qui est plus pour moi liée à Offenbach. Donc c'est une opérette, une caricature, Daumier, tous ces gens-là qui sont des satiriques, qui sont des gens qui attaquent un pouvoir en place, qui est décadent, alors qu'on on se dirige droit dans le mur avec la Commune, avec quand même une vraie tragédie, avec des pensées politiques qui sont émancipatrices pour le peuple, des vraies propositions qui héritent d'autres évolutions. Et du coup, c'est des espèces de chocs comme ça, historiques, thermiques, dont les arts ne peuvent pas faire l'économie de revisiter, en tout cas. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est révolu en nous? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en giration pour explorer à nouveau le temps comme une matière qui serait, on peut dire, ben là, on repart à zéro avec un lieu comme ça. Donc repartir de zéro, et non pas faire table rase, au contraire, mais start from the scratch, et puis, maintenant attaquer cet espace.
Il y avait effectivement beaucoup de corps dans ce Evelyn House of Shame, deuxième version de Christophe Haleb et de sa compagnie Lazouz au Musée des Beaux-Arts, au Palais Longchamp. Des corps plus ou moins nus qui s'en sont donnés à cœur joie jusqu'aux environs de 3h du matin, avec quelques baigneuses et baigneurs dans les bassins du Palais Longchamp.
Photographies ne sont pas autorisées. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous au Merlan avec Walter Chalk, la création de Pierre Droulers, accueilli par le festival Le Merlan et Marseille Objectif Danse, mardi et mercredi prochain. Ce soir, à l'issue de la représentation, Karine Pontiès et son équipe vous invitent à les rencontrer dans le hall d'accueil. Merci de votre attention et bon spectacle.
Le corps des danseurs dans le travail de la chorégraphe belge Karine Pontiès est particulier. Comme pour son précédent spectacle All Alone, présenté l'année dernière par le Festival de Marseille, ces danseurs viennent d'horizons extra-artistiques qui laissent des traces dans leurs gestes avec lesquels la chorégraphe aime travailler. Le spectacle qu'elle présentait cette année dans le cadre du festival s'appelait Humus Vertebra, un travail autour de la figure archétypale de l'épouvantail. Karine Pontiès.
Alors tout le monde me demande pourquoi l'épouvantail, parce qu'il véhicule beaucoup d'imaginaire. Pour moi c'est plein de choses, c'est un autoportrait sans nom, c'est un crucifix, c'est un panneau, c'est un sens interdit, C'est un pauvre type, c'est plein de choses en fait, et beaucoup d'imaginaire. Donc ça a continué aussi avec une collaboration artistique avec un dessinateur. Et il m'a dit, je veux faire des films. Donc comme j'écoute toujours les collaborateurs artistiques, et on est parti sur un film qui serait plutôt du type archéologique, comme un Méliès, comme quelque chose, des vieux films en fait, et qui serait comme des petites apparitions, qui sont très brefs, alors que Call Alone, c'est plus de 40 minutes de film d'animation. J'ai pas de lieu de travail à Bruxelles, et donc je pars plus ou moins 8 mois dans l'année, entre les tournées et les créations, et à chaque fois, les danseurs me rejoignent sur certains, et ils arrivent tout le temps avec des états de corps différents, plus forts, plus faibles, plus, et j'accumule, et donc je les mets dans des thèmes très précis, et des fois il y a beaucoup d'improvisation sur du long temps, des 1 heure, 2 heures, on part sur des univers. Et d'autres fois, on écrit. On prend un thème et on dit, on essaie de trouver quel est le corps pour ça. Et donc, on écrit. Et donc, je me retrouve tout le temps avec 30, 40 heures de matériel. Et on a toujours pour faire 10 spectacles. Et c'est vraiment après du montage. Je suis plus du metteur en scène que de la chorégraphie, puisque moi, j'arrive pas à donner des mouvements. Parce que j'ai un corps très spécifique. Claudio a un corps très spécifique, Eric a un corps, et je trouve que c'est pas, et le fait qu'eux-mêmes écrivent les choses, après c'est à eux, c'est vraiment à eux qu'ils le défendent, parce que c'est leur expression, c'est leur... C'est inscrit dans les corps, et c'est vrai qu'un corps de 20 ans ou un corps de 40 ans, et selon ce qu'il est vécu, comme je disais, il y en a un qui est un ancien ambulancier et pompier de métier, l'autre qui est beaucoup plus du cirque et de la rue, et Yaro qui est danse classique et folklorique, mais qui a été justement gardien de nuit, tout ça s'inscrit dans le corps, et ça fait que la traduction des choses est peut-être plus... il y a du vécu dedans. Et donc c'est beaucoup plus riche, il y a des mémoires, mais pas...
Qu'est-ce qui apparaît de ces vécus-là ?
Mais dans les propositions qu'ils donnent, ils ne sont peut-être pas dans une esthétique, ils sont peut-être plus dans une matière qui est plus brute, qui est plus vécue, qui est plus noueuse. Voilà, des propositions, peut-être pas de danseurs, mais de personnes avec son vécu, son imaginaire, et qui essaient de traduire constamment ces choses-là dans un corps qui a vécu, et qui a des traces, qui a des empreintes, qui a, ne serait-ce que physique aussi, il y a des handicaps qui naissent avec l'âge et qui sont justement des obstacles à passer et à transformer.
Vous allez volontairement vers ce genre de personnes ?
Je ne suis pas volontairement pour essayer de faire quelque chose de... C'est plus intuitif, et c'est des rencontres, et c'est des gens qui me touchent, et c'est un dialogue entre eux. Eux aiment mon travail, moi j'aime le leur, et c'est un vrai dialogue entre eux. Mais je ne choisis pas parce qu'ils sont bizarres ou parce qu'ils sont... C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me touchent comme personne, et ils me touchent comme personne sur un plateau. Donc dans leur proposition, dans leur façon d'être aussi sur le plateau, et de comment ils traduisent toutes ces choses-là.
Tout comme pour les danseurs de Karine Pontiès, les corps de Katrina Christel et Simon Courchel sont porteurs de mémoire. Ils ont longtemps été marqués par l'empreinte de la danse classique. Aujourd'hui membres du Ballet National de Marseille, dirigé par le chorégraphe Frédéric Flamand, ils sont passés à l'écriture chorégraphique avec un premier spectacle, Get Ready, I'm Done.
J'ai vraiment commencé par le classique, j'ai fait pendant 9 ans du classique pour commencer, et c'est vraiment rentré comme une disquette. Je pense que quand on apprend quelque chose en premier, ça rentre comme une disquette. Et après, pour passer au contemporain, c'est pas dur de faire du contemporain, c'est dur d'abandonner ce qu'on nous a appris, de passer, de quitter ces chemins et de prendre ces chemins qui sont pour beaucoup contraires. Voilà, c'est ça qui est dur.
Ça nécessite d'abandonner certaines choses.
Ouais, il faut, ouais. Il faut apprendre à abandonner, apprendre à passer par ailleurs. C'est très bouleversant au début. Moi, je ne suis pas totalement arrivé. Je voudrais encore plus y arriver. Mais c'est ça qui est dur, d'abandonner, ouais.
Pour toi ?
Pour moi, je peux parler plutôt d'un autre sens, parce que là, ça fait beaucoup d'années que je fais que la danse contemporaine. Et d'en retourner ici au Ballet National de Marseille, à reprendre les cours classiques, où je retrouve, pour reprendre mon technique classique où j'ai dans le départ appris, ça prend beaucoup d'entraînement. Je crois que peut-être pour une danseuse classique, avec la technique des pointes, c'est pas évident, parce que le travail de musculature est très différent. Les poids, les centres des corps par rapport à la danse, elle est très différente par rapport à la danse contemporaine, la danse classique. Et comme Simon a dit, c'est plutôt abandonner le mémoire des corps, abandonner l'habitude des corps, les mécanismes qui sont plus conscients, plutôt vraiment inconscients dans le travail, d'abandonner pour offrir pour nouvelles choses.
Et comment on fait pour abandonner ça alors ?
Déjà, on découvre très vite que la danse contemporaine, on danse avec son corps et non pas contre son corps. Je trouve que personnellement, dans la danse classique, il y a quelque chose qui est plus d'aller contre son corps. Quelque chose de danse contemporaine utilise le corps comme il est, son énergie. Voilà, je trouve que c'est ça.
Dans l'anatomie aussi. Aussi dans l'anatomie ou dans la danse classique, il force quand même le corps aussi dans des autres limites de l'articulation qui ne sont pas naturelles, donc c'est très fort, très dur pour le corps. Après, en contraire pour la danse contemporaine, qui est plutôt avec l'anatomie, avec le corps, mais par contre, dans le même temps, il y a aussi beaucoup de travail dans la danse contemporaine, peut-être pour voir comme vous prenez les cables, par exemple, où c'est aussi dur. C'est aussi des risques, où c'est aussi des blessures qui peuvent venir avec du travail. Et c'est extrême aussi dans le contemporain.
Dans leur spectacle Gas Ready, I'm Done, deux personnes se rencontrent, s'apprivoisent à distance, puis se toucheront dans un duo tragicomique à la toute fin du spectacle. La séquence d'ouverture fait se balancer dans l'air, selon un mouvement pendulaire, dans la diagonale du plateau, deux valises autour desquelles les deux chorégraphes dansent. Une réflexion sur la mémoire et le temps qui, comme nous l'ont dit Katrina Christel et Simon Courchel, a été déterminante dans l'écriture chorégraphique du spectacle.
On a commencé tout de suite avec la première partie de ce spectacle, avec la section de valises, qui est dans le départ, vraiment l'idée très claire. On a envie d'utiliser le flashback, le souvenir de soi-même,